Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Soleil est au studio, bienvenue à la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus. Tout le monde a le sourire, j'ai à côté de moi Nicolas qui lui se démène à trouver Elisabeth par téléphone. Et j'ai Sophie et Catherine à côté de moi, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
Alors la petite demi-heure comme chaque semaine en direct le mercredi 19-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30. La petite demi-heure pour épingler les spectacles, chouettes ou pas chouettes, hein, on couvre l'actualité qui a lieu à Bruxelles. Alors on ira du côté d'un spectacle hot, Griselidis au théâtre Les Tanneurs. On ira du côté du théâtre de poche pour les bonnes intentions sur l'adoption. On ira faire un tour du côté du Kéfié, spectacle belgo-palestinien au KVS. On parlera un bout d'un festival, d'un premier festival décidément, sur la danse contemporaine in mouvement au Brigitine. Et on ira voir aussi la forêt d'Ostrovski au public. Mais Nicolas me fait signe. Est-ce qu'on aurait Elisabeth par téléphone ? Elisabeth, oui, est-ce que tu t'es perdue dans cette forêt de Ostrovski mis en scène par Xavier Lukomski ?
Alors perdue, non pas vraiment. Je m'y suis installée pour un long moment puisque la particularité la plus évidente de ce spectacle, c'est sa longueur. C'est 2h20 bien sonné. Ce qui fait que ça donne un petit peu un effet diesel en fait. C'est vraiment quelque chose qui se met en place lentement. Alors peut-être juste préciser qui est Ostrovski, c'est un peu le premier des grands dramaturges russes, donc il est encore avant Tchekhov et on parle parfois de Molière russe, etc. Il est antérieur à Tchekhov. Hein. Et sa proposition La Forêt fait penser par bien des aspects à la Cerisée puisqu'on est dans le domaine d'une riche héritière qui vend sa forêt par se payer des petites choses à droite et à gauche comme ça. Et donc on a un petit peu ce tableau, cette vision de la société russe à l'époque. On est aux alentours de 1870-71, si je ne m'abuse. Et voilà. Et donc tout ça s'est proposé dans la grande salle du spectacle avec une distribution assez importante, comme on n'en voit plus beaucoup. Ils sont bien une dizaine, enfin je ne les ai pas comptés. Il y a deux musiciennes aussi qui sont là en permanence et qui finalement permettent d'alléger un peu les choses.
Mais Élie, que raconte la pièce ? Donc c'est une famille en décadence, hein, comme on voit dans la Russie d'avant 17.
Mais ça n'a pas. C'est vrai que j'étais assez fort dans la Cerisée, parce que dans la Cerisée, on a en permanence le sentiment de ce monde qui va basculer, etc. Là, on est 30 ans avant la Cerisée, puisque la Cerisée, c'est 1904, je pense. On est dans le monde qui est là, mais c'est un petit peu, oui, effectivement, un regard sur la lutte des classes. Et alors, c'est une pièce qui a un propos assez sympathique, puisque simplement, on oppose le comportement des artistes à celui de grands bourgeois qui dilapident un peu leur fortune. Comme
mais est-ce
ça,
qu'il y a une trame un dans la pièce ? Est-ce qu'il y a un pitch, comme on dit aujourd'hui ?
Mais le pitch, oui, c'est mais en fait, c'est vraiment une pièce qui est encore vraiment à l'ancienne dans la mesure où elle se pose très lentement. C'est vraiment quelque chose qui a été écrit au moment où on ne faisait pas des pitchs, où on ne faisait pas des tweets et tout ça. Mais c'est l'histoire d'une riche propriétaire qui vend sa forêt par petits bouts et puis gravite autour d'elle toute une série de personnages. On a l'étudiant, on a des jeunes un peu dénuvrés, on a le marchand, donc on a cette société marchande qui s'amorce là. Et tout ça est un peu bousculé par l'arrivée de deux comédiens ambulants.
Mmh. Et comment comment on met une forêt en scène ?
Alors comment est-ce qu'on met une forêt en scène ? Ben simplement en faisant travailler l'imagination des spectateurs, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui font penser. Il y a une forêt miniature qui est là de manière permanente dedans. Et puis on a des scènes qui se passent dans la forêt et c'est simplement les comédiens qui ont un arbre avec eux et qui l'emmènent. Et les arbres sont toujours omniprésents. Donc il y a aussi une scénographie qui est assez signifiante entre guillemets puisque le mur du fond fait penser un peu à une pancarte à louer ou à vendre. Mm-hmm. Donc
et les costumes sont contemporains, classiques ?
Alors les costumes sont contemporains parce qu'il y a une volonté d'actualiser le propos qui me semble ne pas tout à fait rajouter quelque chose d'essentiel parce que voilà, si cette pièce nous parle, ben, c'est par rapport à notre positionnement dans la société d'aujourd'hui et c'est pas parce qu'il joue en costume comme nous en portons, que la pièce est plus actuelle. Il y a aussi une chanson en anglais au beau milieu, un peu, qui est un peu étrange par moment. Donc, j'ai pas bien compris cette option d'actualisation dans le costume.
Le metteur en scène, Xavier Lukomski, il nous a habitués il sait mettre en scène toute une foule, en tout cas.
Oui, voilà, mais là, tout à fait, les mouvements de foule sont là. Il a tenu aussi à avoir la présence de ces deux musiciennes qui sont là partout, tout le temps, qui sont vraiment en scène pendant les 2h20. Aussi qui sont en contrepoint de chaque scène, et il y a le groupe, mais voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose de joyeux ? Moi, j'avais vu une première mise en scène, je crois, de Cireuil, où il y avait les deux comédiens, les bouffons, il y avait un super duo, oui. Josette et Bozlan. Est-ce qu'il y a cette ambiance, parfois, d'humour ?
Ben, l'humour est là, parfois j'ai eu l'impression qu'il ne décollait pas absolument, mais il y a aussi, je pense, quelque chose dans la salle qui fait... Enfin, moi j'étais passée tout à fait à l'arrière, et franchement, il fallait un peu s'accrocher pour entendre, un peu s'accrocher pour voir. On voit beaucoup de silhouettes, et je pense qu'on perd beaucoup de effectivement, la truculence du texte par cet effet d'éloignement qui est dû à la salle, et la scénographie qui fait aussi qu'on joue quand même assez bien à l'arrière. Il y a des scènes un petit peu plus proches où ils sont dans les rangs du spectateur. On sent que la volonté de l'humour, elle est là, oui, bien sûr. C'est pas même si la pièce est longue, elle est pas pesante. C'est vraiment, oui, je trouve pas d'autre formulation que cet effet de diesel. Ça met du temps à se mettre en route. Et puis sur la fin, on comprend où ça va, mais pendant tout un temps, voilà, on est avec, on est tendu pour essayer d'entendre au sens propre aussi. Et puis, bouf, voilà, il y a ce message. Qui est sympathique, évidemment, surtout pour pour tous ceux qui pensent que l'art a quelque chose à apporter à la société, et cette critique, évidemment, du pouvoir de l'argent.
Allez, La Forêt, elle revient de temps en temps, on va dire tous les 5 ans, on la remet sur scène. La Forêt d'Ostrovski, mise en scène par Xavier Lukomski, qui fait là un retour, hein, après, il avait la direction des Tanneurs, voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il réussit son coup, mine de rien, Élie?
Mais je pense qu'il y a probablement une petite période de rodage encore à trouver, de voir un petit peu les choses doivent un peu, oui, il faut un peu huiler la mécanique, pour ça restera toujours un spectacle quand même long qui va nécessiter, je pense, une attention aussi. Donc voilà, il faut pouvoir encaisser les 2h20. Mais oui, moi je n'ai pas eu de sensation d'ennui non plus. C'est pas non plus qu'on est emporté dans quelque chose. Ouf, voilà.
Ok. C'est à voir.
C'est à voir jusqu'au 28 avril.
Voilà, oui, on a le temps. Voilà. On a le temps de les faire rôder, on va dire.
Merci. À la semaine prochaine,
voilà.
Elisabeth.
À bientôt.
À bientôt. Alors, c'est vraiment le grand écart, parce que de La Forêt, on va aller dans une maison close, une chambre close. Catherine, toi, t'es partie voir Griselidis en mini-jupe léopard.
Oui, Griselidis, inspiré du personnage Griselidis réel, personnage qui a existé, qui est né dans une famille tout à fait normale, banale, et puis la vie l'a fait un petit peu basculer. Elle a fui avec un amant en Allemagne, et puis là, a sombré dans la misère, et du coup, s'est prostituée. Et elle a découvert là, je dirais pas une vocation ni une passion, mais un sens à sa vie quand même, puisqu'après, elle a revendiqué son métier de prostituée comme un acte rebelle, libre, révolutionnaire. Voilà, elle revendiquait son rôle par rapport à son métier.
Elle est d'origine suisse et c'est...
Elle est d'origine suisse. Je dirais que... je sais qu'elle était en exil en Allemagne dans les années 60. Elle est morte dans les années, au début des années 2000 d'un cancer. Et la pièce raconte tout ça. C'est mis en scène par Denis Lojol et c'est joué par 6 comédiennes. 6 comédiennes pour jouer un seul personnage. Moi, je trouvais que ça marchait bien parce que ça amenait une dynamique différente, une personnalité différente à chaque fois, un mouvement, quelque chose, un rythme différent. C'est aussi mis en scène sur un plateau circulaire comme une piste de cirque. Alors, en plus, il y a un lit au milieu avec une peau de bête, donc on fait tout de suite la comparaison. On pense à l'image de cette femme qui a dompté les hommes tout au long de sa vie.
Ces 6 comédiennes, elles interprètent le personnage de Griselidis à différentes époques de sa vie.
Voilà. Alors, c'est en fait, tout est inspiré de ses écrits. Elle a écrit plusieurs choses, parce qu'elle a aussi été emprisonnée pour trafic de drogue au moment où elle était prostituée. Donc c'est là, en prison, où elle a commencé à écrire, et puis elle a écrit plein de choses, notamment un carnet noir assez cru, puisqu'elle y répertorie toutes les caractéristiques sexuelles
de ses clients,
mais c'est vraiment, c'est trash, quoi, c'est cru.
C'est trois lignes, hein. On donne les feuilles pendant le spectacle au public, il est écrit Roger, grosse bite, il aime ça, il fait tel métier.
Voilà, j'osais pas aller dans les détails,
c'est ce genre de... Et elle l'explique tout simplement, on n'est pas dans la vulgarité.
Tout à fait, c'est ça. Moi, je trouve ce qui a de plus réussi dans cette pièce, c'est qu'on a là un parler très cru. Elle n'y va pas par quatre chemins pour décrire sa vie, pour décrire ses hommes, pour décrire ses préférences à elle, ses rituels, la manière dont elle les reçoit, leur
manière,
leur sexualité. Enfin, voilà, on aborde vraiment tout. Notamment un bossu qui vient la voir à un moment, elle est un peu dégoûtée, et puis finalement, voilà, il se crée une relation. Et malgré ça, malgré ce discours-là très explicite, on n'est en effet jamais dans le vulgaire, jamais dans le scabreux, on est plutôt dans quelque chose de très festif. Alors, on vous sert à boire au début, il y a du Gypsy King qui résonne dans la sono, c'est une ambiance un peu de cabaret, comme ça... Ce qui donne un côté très généreux, pas du tout prétentieux, et on se laisse emporter parce que l'écriture est crue mais très belle, moi je trouve. Mm-hmm. Ça raconte une leçon de vie d'une femme qui a fait des choix étonnants, qui les assume et qui a trouvé une satisfaction dans cette vie-là. Et
parce que en plus elle a travaillé pendant longtemps comme prostituée, et puis elle a un regard sur la société et elle a un côté anarchiste, parce que à ses clients elle ne se lassait pas de donner des livres significatifs à l'un ou à l'autre, donc il y avait vraiment, on va dire, c'est l'intello, la pute intello. Voilà,
tout à fait, elle avait même des correspondances avec certains intellectuels dont s'est inspirée aussi la pièce, hein. On reprend certaines de ces lettres-là. Donc oui, en plus, elle était très intelligente. C'est vraiment une pièce chaleureuse, conviviale, osée. C'est pas du tout à mettre entre toutes les oreilles. Il faut surtout pas y aller avec ses enfants, avec un jeune public. Mais ça dure pas très longtemps. Ça dure 1h30. Moi, j'ai trouvé quand même le jeu un peu inégal et certains passages un petit peu scolaires. Mais par contre, il y a des très très bonnes comédiennes aussi. Voilà, moi je trouve que c'est un spectacle tout à fait agréable.
Ça se regarde en passant, et en plus le sujet est tellement inédit, d'avoir une parole crue comme ça de long en large, et avoir la sexualité, le regard de femme sur la sexualité des hommes qui viennent payer leur passe, voir jusqu'où les limites, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut demander quand on paye.
Oui, ça brise beaucoup de tabous aussi sur une pratique qui est... pas vraiment légal, mais quand même toléré en Belgique, qui est pénalisé en France, qui provoque beaucoup de dilemmes, beaucoup de débats. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'utile. Et en plus, ça a essaimé plein d'associations. Il y a une association Griselidis à Toulouse, il y a des associations ici en Belgique qui défendent, qui essaient de réglementer en fait ce métier et de montrer qu'on peut l'exercer avec un statut légal. Voilà.
Et ça donne envie de découvrir l'auteur, comme tu disais, Catherine, avant l'émission. Donc, Griselidis, c'est à voir au Tanneur, cette curiosité, hein, cet ovni, jusqu'au 31 décembre,
mars.
J'allais dire, mais
décembre,
non, mars.
Et on peut citer peut-être un petit peu la distribution, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Selma Alaoui, Déborah Hamsen, Aurore Fatier, Sophie Jaskulski, Sophia Lebout et Florence Minder.
Ce sont des bonnes comédiennes, hein, rodées par ailleurs et tout, même si parfois le jeu est inégal. Moi, je trouvais que parfois le metteur en scène oubliait de les mettre en scène et il les laissait un peu à elles-mêmes. Mais c'est un bon petit moment à passer au théâtre jusqu'au 31 mars.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Oui, alors entre-temps, un beau petit spectacle à voir au théâtre de Poche. Ce sont Les Bonnes Intentions de Cathy Mignon, que Catherine, tu as vu encore.
Que nous avons vu ensemble, je te rappelle, à Charleroi, avant que ça ne vienne ici à Bruxelles, aux Poches. C'est une belle petite pièce aussi, encore une pièce de femme, portée par Cathy Minyoung, qui en fait raconte sa propre histoire, puisqu'elle était adoptée à l'âge de 3 ans. Elle est venue de Corée, en Belgique, elle a été adoptée par un groupe d'agriculteurs wallons. Et la rencontre ne s'est pas faite. Et donc cette pièce casse complètement les tabous sur cette adoption qui, en fait, se passe souvent assez mal. Enfin, en tout cas, c'est un traumatisme à la fois pour les enfants et pour les parents. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déjà été abandonnée deux fois par ses parents, puis par l'orphelinat. Et elle est arrivée en Belgique, elle raconte ça complètement fermée à l'amour de ses parents, qui en plus n'étaient pas les parents les plus sympathiques d'après ce qu'on comprend du texte, qui l'ont un petit peu utilisé, pas comme une esclave, mais bon, voilà, en tout cas largement exploité au niveau des tâches ménagères. Et elle raconte ça seule en scène, avec encore une fois des mots très simples, mais assez durs. Elle dit notamment des phrases comme « Votre amour a fait de moi un soldat ». Je trouve que ça résume très bien le fond de cette histoire où il y avait une rencontre qui ne pouvait pas se faire et c'est assez désespérant parce que ces parents-là avaient quand même envie de l'aimer et ce n'était pas possible. Elle dit elle-même qu'elle n'était pas adoptable. Enfin voilà, elle raconte tout ça. Elle raconte son arrivée en Belgique, elle raconte ses parents. On ne va pas tout dévoiler, mais il y a des choses assez trash quand même. C'est pas une belle histoire d'adoption, mais c'est très bien de porter cette parole-là, loin de l'angélisme qu'on observe souvent quand on parle de l'adoption. Et ce qu'il y a aussi, c'est que quand on parle d'adoption, on parle très souvent du point de vue des parents qui adoptent, mais très rarement des enfants. Donc voilà, elle aborde plein d'aspects, seule en scène dans le décor, c'est celui d'une bétaillère, pour rappeler le contexte agricole dans lequel elle est arrivée. Et avec aussi un bel emballage, moi je trouve vidéo, un peu abstrait, mais qui donne une belle couleur à ce solo. À la fois, je trouve doux dans la manière dont elle le porte, mais très dur dans son propos.
Ce qu'il y a, c'est que faut dire, bon, il y a une part de fiction. C'est son premier texte qu'elle écrit. Elle est comédienne à la base. C'est son premier texte qu'elle écrit et elle remplit de la fiction. Donc, dès le début, on est un peu troublé entre la réalité ou pas. Il y a une histoire d'inceste. Il y a à un moment donné des délires un peu paroxystiques sur cette histoire. Donc, elle a quand même brouillé les pistes pour pas. C'est pas un témoignage brut. Voilà toute mon histoire.
Ni un procès de ses parents.
Ni un procès, elle règle pas ses comptes, elle essaye d'ouvrir des questions du point de vue de l'adopté sur le déracinement, par exemple, quelque chose qui celui qui n'est pas déraciné peut pas piger, mais à 3 ans, elle cherche une odeur qu'elle ne trouve pas dans la nourriture, évidemment, il y a des choses qui lui marquent de son pays. Bon, elle a été aussi adoptée dans les années 70, sûrement qu'il y a une évolution, parce que elle s'est retrouvée à Zaventem à suivre ses parents, ses nouveaux parents dans une voiture, une gamine de 3 ans, tu suis des étrangers comme ça à l'autre bout, et elle sait qu'elle ne reviendra pas. Elle le sent, donc elle règle pas ses comptes, mais elle ouvre des questions et elle prend cette parole. Elle l'avait déjà fait avec un film, parce qu'elle avait filmé des Coréens qui sont retournés dans le pays pour un peu voir. Donc elle voulait, comme Catherine dit, casser tout ce qui est autour de ces fameux parents courageux. Et alors, bon, ça se passe mal, notamment avec la mère, mais dans le spectacle, elle distille bien la chose qui est un point clé, c'est que d'abord, les parents qui adoptent, c'est d'abord, ils démarrent d'un problème, c'est que l'un des deux parents ne peut pas enfanter, là le père est stérile, la femme, non. Et bon, elle suit un peu son gars qui lui dit « on va adopter, tu n'auras pas d'insémination, on fera ». Et donc, il y a une espèce de... Ça démarre déjà mal à la base. Et moi, j'ai une amie adoptée qui disait « quand tu es adoptée, ils te donnent... Ils sont tellement pleins d'amour, ils viennent déjà d'un manque et ils sont là à te remplir de l'amour et ils attendent ça de toi. » Et la Cathy Mingyung, dans la pièce, elle n'a pas cet amour tout de suite et c'est là que ça clash, quoi. Ça foire parce qu'il faut peut-être donner le temps. Autant, c'est une pièce aussi, comme Griselidis, assez étonnant, c'est des sujets qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, et c'est très bien fait. C'est à voir.
C'est à voir jusqu'au 7 avril au Théâtre de Poche, une belle petite pièce.
Et les agendas culturels de Radio Campus auront des places à vous offrir pour cette pièce.
Ah bon, allez, moi je vous emmène en Palestine. Alors, Kefier au KVS, un petit mot. Alors, le KVS fait un travail d'échange culturel et de formation, de workshop, comme on dit. Ils envoient des comédiens dans des pays où ils font un travail. Ils ont fait souvent longtemps le Congo. Et puis, depuis 2006, en fait, ils sont en Palestine. Et leur premier projet, ils viennent de le présenter. Ça s'appelle Kefier Madine China. Ils sont à Ramallah depuis 2006 avec un théâtre. Ils essayent de travailler. Donc, c'est 5 Belges et 5 Palestiniens qui se retrouvent sur scène avec une écriture d'une jeune auteure palestinienne. Je crois qu'elle s'appelle Dalia Taha. D'ailleurs, le KVS publie le texte. Et ce sont des scènes de la vie quotidienne. La longue file devant le checkpoint, l'achat d'un kéfier par une touriste qui ne rêve que de ça, mais il leur propose un peu autre chose. Et on a quelques situations comme ça. La situation des 60 60 secondes de quelqu'un qui va mourir, qui est jeteur de pierre ou pas, et qui fait le buzz sur Internet. Donc il y a ce dialogue juste avant de mourir. On a quelques scènes comme ça. Moi, j'ai senti un peu trop le travail d'école, le travail de groupe, le workshop un peu trop, et pas assez le spectacle en soi. Les scènes tirent en longueur, et finalement, on a envie de dire, à un moment donné, les workshops. Il y a certains workshops ou ateliers créatifs dans certains pays qui doivent finalement peut-être que rester là-dedans, qui ne sont pas encore prêts, ou alors mettre ça par des metteurs en scène ou des artistes très rodés. Je sais que Platel travaille là-bas, par exemple, Alain Platel, dans la chorégraphie, ça peut peut-être donner autre chose. Les spectacles venus du Congo que le KVS donne sont toujours par des metteurs en scène rodés, connus, des grosses pointures, et ça donne quelque chose. Roussel vient de faire un succès au XS Festival avec une troupe sénégalaise. Inattendu, ça venait aussi d'un workshop. Le public l'a très bien accueilli. Ça va poursuivre sa route la saison prochaine. Donc, il y a moyen, mais il faut quand même y aller. On ne peut pas envoyer, je ne veux pas dire le petit metteur en scène, mais il faut avoir quand même des ambitions. Les moyens, ils les ont, le KVS là, mais au moins mettre des metteurs en scène. Si Fabre allait à Ramallah ou si Joss de Pau allait à Ramallah, il y aurait quand même un travail beaucoup plus puissant avec des comédiens qui sont aussi en formation parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut là-bas, mais il y a quand même un échange. Donc, moi, j'ai trouvé un peu l'histoire décevante. Pourtant, on y allait avec des bons sentiments, évidemment, Ramallah, Palestine et tout. Mais donc, voilà, une petite déception pour Kefieh, mais on va quand même saluer le KVS et son travail dans les pays où ça manque cruellement d'écoles ou de formations, théâtre, arts plastiques, performances, danse contemporaine, etc., etc. Le Kefieh, c'est à voir jusque samedi, jusqu'au 31, au KVS, kvs.be. Voilà pour ce workshop Palestine. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un festival In Movement. Sophie, que toi, tu as un peu circulé. Alors, In Movement, juste pour résumer, c'est des Brigidines qui font leur festival de danse contemporaine, un peu comme le Balzamarni, c'est-à-dire ils veulent prendre le pouls de la danse contemporaine à Bruxelles. La danse contemporaine à Bruxelles, depuis les années 80, c'est une plaque tournante vraiment connue internationalement, notamment par l'école d'Anne Teresa, l'école Partz. Donc, on a Balzamarni qui faisait leur festival. Eux voulaient prendre le pouls de la danse contemporaine à Bruxelles avec des pointures, avec des gens qui ont une certaine maturité. Toi, tu as suivi depuis quelques jours. Il y a du monde, il n'y a pas de monde.
Oui, alors ça se passe très bien. C'est une chouette ambiance. Donc, la chapelle des Brigitines en plein centre de Bruxelles. Et ben voilà, une très belle offre en danse contemporaine, comme tu le dis. Ça se remplit très bien. Il y a quand même
des soirées composées.
Il y a des soirées composées. Il y a vraiment un peu de tout. Et ça se passe et dans la chapelle et dans la salle mezzo. Et voilà, donc on peut citer quand même quelques noms. Il y a Frey Werbrook qui sera là, Erika Zuenelli, Michel Andemay. Voilà, donc des objets contemporains. Pour d'autres, c'est un retour à l'Antiquité dans leurs pièces. Il y a aussi de l'humour. On a eu l'occasion de voir Pique-nique, une pièce très très drôle.
C'est grand écart, hein. En même temps c'est de la danse drôle et en même temps quelque chose de très sobre sur le mouvement.
C'est ça vraiment l'avantage de ce festival pour les personnes qui veulent aller voir plusieurs spectacles, c'est que ça permet de donner une idée de la danse contemporaine qui n'est pas arrêtée parce qu'il y a tellement de formes différentes que voilà, ça donne vraiment une très belle offre. Et toi, tu as vu le spectacle At Your Place.
Moi j'ai vu At Your Place qui revient samedi, je vous conseille d'aller voir, c'est dans un appartement. Alors vous êtes installés tout autour et les deux mecs sont là, ils dansent, ils montent sur des livres, ils font des gestes de mouvement contemporain. Et à un moment donné, vous captez que parfois, ils reprennent le même geste que vous faites. C'est-à-dire, je ne sais pas, si vous mettez le doigt dans le nez, il va se mettre le doigt dans le nez. Et vous dites, merde, il est en train de m'imiter, les gars, et vous ne savez plus comment vous placer. Et alors, il y a toute une danse contemporaine qui est très, très belle, sur un leader de Schubert, sur une musique turque, sur un crépitement, sur un métronome et tout. Et à la fin, ils disent, attendez les gars, on va s'habiller, on va changer de t-shirt parce qu'ils sont en sueur totale. Et ils viennent s'expliquer, c'est un danseur israélien et un danseur italien. Ils en avaient marre comme danseurs de se retrouver sur la scène et de voir tout le public dans le noir. Il dit, nous, on ne vous connaît pas, on vous voit dans le noir, on danse depuis des années. Le gars, il est rodé, ça fait 30 ans qu'il est dans le milieu. Et à un moment donné, il en avait marre de ne plus voir les gens. Il dit, mais je ne vous connais pas. Donc ici, ça nous permettait, la lumière est crue, ça nous permettait de rentrer en contact avec vous. Et alors là, il peut avoir un échange de questions. Et donc voilà. Et ils se sont habitués à quelque chose de con. Hein. C'est s'il y a quelqu'un qui dort, qu'est-ce qu'ils font? Donc au début, ils étaient déboussolés. Et il dit, voilà, il y a tous ces genres de choses qu'on ne sait pas, qu'on doit gérer live.
C'est dans la l'appartement de qui ?
Alors, c'est juste à côté des Brigittines, il y a tout un espace de résidence, comme on dit, c'est-à-dire quand les danseurs viennent, il leur faut un lieu, hein, parce que c'est un lieu international, et c'est des lofts qui sont là. C'est très sympa, parce qu'au début, personne ne se connaît, et ce qui est curieux, c'est que quand on repart, tout le monde serre la main aux danseurs, donc c'est qu'il y a vraiment un échange.
Ça se joue ce jeudi et samedi au loft des Brigittines, mais il est bien mis dans le programme qu'on peut aussi accueillir le spectacle chez soi.
Voilà, voilà. Là, il faut avoir un peu de moyens et un peu d'espace, et alors accueillir les spectacles, vous pouvez laisser votre adresse. En tout cas, c'est une chouette expérience à faire. Et bon, ben, il y a 30-40 personnes, hein. Faut pas non plus prenez vos places à temps si l'expérience vous tente. Juste un petit mot pour dire un petit coup de cœur de minute opportune au National.
Je voulais juste rappeler donc toutes les infos sur brigittines.be. Et voilà, donc le Théâtre National qui reprend Minutes opportunes de Michel Noiret. Donc là, c'est de la danse, bien sûr. Et on est dans une ambiance mystérieuse à la Hitchcock. On a 4 danseurs sur scène, 2 hommes, 2 femmes, des habitués de Michel Noiret. Et voilà, le temps qui s'écoule, le temps qui se suspend aussi. Et pendant ce temps, des rencontres, des relations, des petites intrigues aussi. Voilà, on est dans le mystère hitchcockien.
Bien, pour vraiment imaginer qu'un suspense peut se faire avec des mouvements et de la danse, c'est vraiment ça, dans cette minute opportune, parce qu'il y a un mouvement de fuite et des passages qui sont fulgurants, avec une bande-son de Todorov qui est très film américain. On entend des hello, hello, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a ces gens qui fuient entre des portes et des mouvements dans des lumières très blanches
très
qui
lumière.
Cassent. Mmh. C'est un petit bijou à revoir cette semaine.
C'est jusqu'à ce samedi aussi, décidément, au Théâtre
de
National.
Qu'est-ce qu'il y a comme scène cette semaine? On vous souhaite la pluie pour aller vous enfermer au théâtre. N'ayez pas peur du soleil, allez au théâtre. Ainsi se termine la conspiration des planches. On l'a fait à fond, hein, la conspiration
des planches. En tout cas, on peut dire qu'on peut faire des stocks pour quelques semaines puisqu'on ne revient pas la semaine prochaine.
Bien, c'est vrai, comme le dit Catherine, la semaine prochaine, Catherine nous invite. On va en vacances et on se revient le 18 parce que les théâtres se reposent.
Oui.
Effectivement, la semaine prochaine, c'est Pâques, c'est pas la fête de l'ULB. Mais
voilà. Mais en tout cas, allez voir dans les théâtres tout ce qu'on vous a proposé ici. Profitez-en aussi de ces congés et de nos congés également. Et n'oubliez pas que les podcasts de la conspiration des planches se retrouvent sur le site de demandezleprogramme.be et également dans le centre de ressources de la Bellone. Très très belle semaine à vous et à bientôt.
La constelación.